Rencontres sauvages, un podcast du Musée de la chasse et de la nature. À l'occasion de la 6e édition Lire la nature, salon du livre de la Fondation François Sommer, nous avons convié 5 auteurs à des rencontres sauvages. Les écrivaines Sandrine Collette et Maïlys Adhémar, l'historien Éric Baratet, les écrivains Cédric Gras et Gaspard Koenig nous ont donné leur définition du sauvage après de nous avoir raconté une rencontre sauvage. Sandrine Collette.
J'ai la chance d'habiter dans le Morvan, qui est une région assez rurale et assez forestière. Et je me souviens d'un jour où j'étais en famille, on était une dizaine. On se promenait dans un bois et on a entendu du bruit soudain, pas loin. Donc on a écouté parce qu'on est quand même dans un bois et qu'on fait un tout petit peu attention, même si on a l'habitude de croiser plutôt des écureuils. Et il y avait une mère sanglier avec 2 petits, figés à peut-être, je sais pas, 20 ou 30 mètres. Donc on a tous eu un temps d'arrêt. Mon père, qui était grand-père, a emmené les petits-enfants. Il y avait des arbres avec des branches basses en disant « montez, montez, on ne sait jamais ». Donc il a aidé les petits à monter. Il y avait un arbre retourné, on s'est... C'était ridicule, mais on est quand même monté sur le tronc parce que les 2 marcassins sont venus en courant vers nous. Ça nous a complètement saisis puisqu'ils sont venus, alors je dirais bien en remuant la queue, parce que c'était quasiment ça, ça remue la queue. Ils sont venus jusqu'à nos chaussures, regarder ce qu'on était, ce qu'on sentait. Et je me souviens, ma sœur leur disant « mais pchit, pchit, allez-vous-en, allez-vous-en ». Et la mère était figée à 30 mètres au-dessus de nous, une mère très noire, très immobile, et on ne savait pas ce qu'elle allait faire. Voilà. Et on a attendu, les petits sont restés, ils ont couru à l'arbre où les gamins étaient montés, ils ont regardé, ils sont revenus vers nous, et d'un coup la mère est partie, et les petits l'ont rattrapé comme des fous, et ça a disparu, mais comme dans un conte. Une longue minute après, c'était parti.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ?
Alors c'était un mélange de peur, parce que il y a des accidents avec des sangliers. Donc il y avait un peu ça. La chose, immédiatement après, c'était très différent. C'était de me dire, mais alors, à l'état sauvage, à l'état naturel, ils n'ont pas peur de nous. Et ça, ça m'a fait réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a peur les uns des autres, alors que visiblement, petit, ça n'existe pas, la peur. Ni chez eux, ni chez nous. Parce que chez nous, les enfants ont dit, oh, est-ce qu'on peut les caresser ? Non, vous montez dans un arbre.
Éric Baratet.
La rencontre sauvage en ce moment, c'est avec un écureuil. Nous avons des écureuils acrobates. C'est-à-dire que devant la cuisine, sur un arbre, j'ai suspendu une tour à graines pour oiseaux. Je l'accrochais à une branche et les écureuils viennent. Ils s'accrochent par les pattes arrière à la branche et ils se laissent tomber. Avec les pattes avant, ils saisissent la tour et puis ils mangent. Et alors, on voit l'écureuil se balancer, la tête en bas, et avec la tour qui se balance aussi. C'est très drôle à voir, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes. De temps en temps, il remonte sur la branche pour finir de mâchouiller, et puis il se relance. Et c'est très drôle à voir. Voilà, c'est extrêmement reposant pour celui qui regarde.
Qu'est-ce que vous ressentez aussi quand vous regardez ces écureuils devant chez vous ?
Une certaine harmonie, dans le sens où ils peuvent venir, ils n'ont pas peur. Même lorsqu'on sort, ils se redressent, ils se mettent sur la branche, mais ils n'essayent pas de s'enfuir. Ils nous ont apprivoisés, finalement. Finalement, on pourrait avoir un monde beaucoup plus pacifique avec les animaux que ce que nous avons encore actuellement.
Maïlys Adhémar.
Ma première rencontre véritable avec le sauvage, pour moi, c'était quand j'étais enfant. Je montais à cheval, j'habitais à la campagne, dans un tout petit un territoire très, très isolé. Et un jour, je me suis retrouvée dans une clairière face à un chevreuil. C'est-à-dire que mon cheval broutait tranquillement, et là, on s'est retrouvés nez à nez avec un chevreuil qui nous a regardés. Et c'était quelque chose de très rare, parce que souvent, les chevreuils qu'on voit, ils sont dans les phares d'une voiture, ils sont poursuivis, ils sont en fuite. Et là, il n'y avait pas de fuite. Il y a eu un mouvement de... Nos regards se sont croisés, et tout le monde aurait pu tout de suite exploser, le cheval aurait pu partir. Et il y a eu un moment, comme un temps suspendu, comme ça, qui était très dérangeant aussi, parce que quand on croise le regard d'un animal sauvage comme ça, c'est quelque chose de très particulier. Ça a été un moment de prise de conscience aussi de ce qu'est le sauvage, de voir le sauvage dans les yeux, de voir qui il est, que c'est une personne. Ça, c'est vraiment une rencontre qui m'a beaucoup marquée, mais elle resterait, voilà, ça durait quelques secondes, puis tout s'est évanoui. Et ma véritable rencontre avec le sauvage, c'est la Patagonie. C'est un territoire où je suis allée, et là, le sauvage est partout. Là, on arrive sur un territoire où tout est sauvage parce que les natifs ont été exterminés. Et l'homme contemporain est incapable de vivre seul sur ce territoire en autarcie. Il ne peut pas, il a besoin d'avions qui lui amènent à manger, etc. Il a besoin de constructions qui viennent d'ailleurs. Et quand on s'éloigne, on se retrouve vite dans des paysages complètement sauvages. Et ce qui est très impressionnant dans ces territoires-là, c'est de se rendre compte que des hommes ont survécu pendant des millénaires. Les peuples Cheknam, etc., ont vécu pendant des millénaires sur ces territoires, que nous les avons considérés comme des sauvages. Et en même temps, eux ont réussi à vivre avec ce... Ils n'étaient pas sauvages comme on peut le croire, puisqu'ils avaient toute une forme culturelle, mais ils ont réussi à vivre dans ce monde sauvage, justement, sans le toucher, en s'y glissant. C'était des nomades marins, pour certains, qui se glissaient sur les canaux et qui ont laissé très peu de traces, mais qui vivaient en lien incroyable avec ce sauvage. Je pense que c'est cette prise de conscience-là, la Patagonie, ça a été vraiment une rencontre avec ce territoire sauvage et avec le regard que nous pouvions avoir du sauvage.
Cédric Gras.
Donc alors moi j'ai eu un petit peu de chance, alors en même temps je l'ai provoqué, c'est vrai, je suis allé la chercher, j'ai fait quelques rencontres avec des ours. Là, on parle de rencontres sans grillage entre nous, sans non plus de fusil sur moi, seul face à face. Mais c'est des face à face qui sont très brefs, qui durent très peu de temps, puisque rapidement, il y en a un des deux qui a peur et qui s'enfuit. Moi, je ne suis pas chasseur, donc je ne provoque pas moi, ces rencontres. Elles se font de manière inopinée, et en général, parce que l'un n'a pas vu l'autre, ou les deux d'ailleurs, parce que si... vous êtes dans le vent avec l'animal vous flaire, et il part. Et si vous faites attention, évidemment, vous allez l'éviter. Donc, ce sont toujours des rencontres fruits du hasard, où tout le monde est très surpris. Et c'est de là naît d'ailleurs le danger. Donc, j'ai eu des ours plusieurs fois, mais qui ont détalé souvent. Je ne les ai pas vus de près. Et je ne les ai remarqués que parce qu'ils ont détalé. Et c'est là que je me suis rendu compte de ma nullité absolue, de mon incapacité, en fait, à survivre. Et à anticiper des dangers dans le monde sauvage. Mais parce que moi, je suis un pur produit de la civilisation qui est attiré par la nature et qui s'y aventure de manière complètement naïve, innocente et presque inconsciente, puisqu'en réalité, je n'ai aucune chance de survie si l'animal voit en moi un beefsteak.
Gaspard Koenig, racontez-nous une rencontre sauvage.
Il n'y a plus beaucoup d'endroits sauvages en Europe. Il n'y en a plus du tout, il reste quelques forêts primaires en Pologne, en Roumanie, dans les Carpates aussi, où j'ai été marcher quelques fois. Et moi j'aimerais bien essayer de trouver la sauvagerie plus près de chez nous, et en Normandie, qui est un paysage complètement anthropisé. Il reste une petite sauvagerie, ce sont les pommes sauvages. Et les pommes sauvages, c'est ce qui a d'ailleurs donné la pomme à cidre, pomme très acidulée. Et dans certaines forêts, on peut encore trouver des pommiers qui sont des pommiers sauvages, c'est-à-dire que personne ne les a plantés, et qu'on peut espérer que ces pommes n'ont jamais été travaillées, modifiées, ni sélectionnées par la main de l'homme. En tout cas, on peut le fantasmer. Et celui qui m'a un peu mis l'eau à la bouche, c'est Henri David Thoreau, qui a écrit un long article sur les pommiers sauvages. Et il explique notamment, et j'ai essayé de suivre son exemple, comment goûter la pomme sauvage. Parce qu'il est vrai que la pomme sauvage est un peu désagréable au goût. Elle est très acide, elle colle à la bouche. Donc clairement, ce n'est pas une pomme qui est faite pour l'homme. Ce qu'il explique, c'est que le pommier sauvage a dû faire vraiment beaucoup d'efforts pour se développer. C'est facile pour le pommier domestique. Il est bien protégé par son corset des animaux, et donc il va pousser tout droit, tout seul, très vite. Et puis en quelques années, vous avez des pommes. Mais le pommier sauvage, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit attendre, en fait, de créer une sorte de buisson d'épines autour de lui, et ça peut prendre 10 ou 20 ans. Et une fois qu'il a fait tout cet effort, il va commencer à pousser en hauteur, après s'être lui-même protégé, des herbivores qui viendraient dévorer les jeunes pousses. Et donc forcément, quand il arrive avec sa pomme à la fin, il est épuisé et il fait quelque chose qui n'est pas plein de sève et de jovialité, quelque chose d'un peu dur. Et donc Thoreau dit, pour apprécier ce goût-là, il faut soi-même s'être fait un peu sauvage. Et donc, il faut marcher dans la forêt, dans les ronces, dans les taillis, on peut imaginer par grand vent, bien, bien mouillé. Et une fois qu'on arrive dans cet état un peu d'hébétude, eh bien, la pomme sauvage prend le goût qui correspond, en fait, à notre état d'esprit.
Quelle serait votre définition du sauvage ?
Le sauvage, c'est tout ce qui nous permet de nous regarder nous-mêmes, en fait. Tout ce qui constitue un espace suffisamment extérieur à l'homme ou à la société pour qu'on puisse apercevoir celle-ci depuis cet espace sauvage. C'est-à-dire, c'est une extériorité par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes plongés. Et si je reprends mes pommiers sauvages, ce n'est pas un hasard que Henri David Thoreau, quand il sort de prison, puisqu'il a fait une nuit de prison pour désobéissance civile, et il veut fuir, dit-il, l'État, il veut fuir la société. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il monte dans les collines pour ramasser des mûres sauvages. Et là, il dit, de cet endroit-là, l'État n'existait pas. Et donc, je pouvais le regarder quelque part dans sa pureté. Et c'est pas un hasard si le même Thoreau développe le concept de désobéissance civile. En fait, la désobéissance civile, c'est trouver le lieu ou la part du sauvage en nous qui nous permet de regarder, de juger la société et donc d'y désobéir. Donc le sauvage, de cette manière, c'est la désobéissance.
Sandrine Colette, quelle serait votre définition du sauvage ?
Le sauvage, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas abîmé, d'abord, par de la civilisation. Donc évidemment, je pense au sauvage naturel, avant de penser à l'homme sauvage. Je dirais que c'est ce qui n'obéit qu'à la loi de la nature, pour moi, fondamentalement. Donc pas à la loi des hommes. La loi de la nature, c'est la loi de la conservation et la loi de la survie avant tout. Fondamentalement, le sauvage, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'entend pas la raison. Chez l'arbre ou chez l'animal, il n'y a pas de raisonnement. C'est-à-dire ça, on marche purement à l'instinct. D'où le fait que le sauvage peut se retrouver chez l'homme aussi, quand il a arrêté d'être un homme. C'est-à-dire quand il revient à quelque chose de plus bas, de plus bestial, de plus primaire et de plus négatif. Ça peut être aussi quelque chose de plus haut, dans un certain dépassement de soi. Je dirais que quand on arrête de réfléchir, quand on arrête d'avoir une pensée consciente ou des comportements dictés par la société, etc., parfois, pour survivre, pour faire face à une réaction, etc., je dirais le sauvage prend le pas en nous pour nous sauver.
Éric Baratet.
Le sauvage, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à définir. D'abord, c'est pas tellement sauvage, je dirais plutôt libre. Un animal sauvage, c'est avant tout un animal libre, mais il n'est pas sauvage dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire brut, sans culture, sans sociabilité, etc. etc. Hein, la plupart des animaux ont des règles de sociabilité, ont des émotions, ont une manière de se comporter, donc des cultures comportementales. Donc le terme de sauvage ne convient plus bien parce que on a toujours dans la tête cette idée de sauvage comme quelque chose étant l'opposé de l'humanité. Deuxième difficulté, c'est que un animal sauvage n'est pas forcément, ou une espèce sauvage ne l'est pas tout le temps forcément. Il suffit de penser par exemple aux chevaux qui ont été un temps domestiqués puis qui sont redevenus sauvages. Ce sont par exemple les chevaux de Przewalski qu'on a cru être les derniers chevaux sauvages, et en fait ce sont les descendants réensauvagés des premiers chevaux domestiqués. C'est quand même un sacré pied de nez. Donc voilà, c'est extrêmement fluctuant, d'autant plus que tous les animaux sauvages évidemment, doivent faire avec leur environnement. Et dans cet environnement, on peut avoir un fort impact de l'humain. C'est extrêmement poreux entre sauvage et domestique. C'est pour ça que je dirais plutôt un animal sauvage est un animal libre.
Maëlys Adémar.
Alors pour moi, le sauvage, c'est à la fois la liberté et le danger. parce que le sauvage induit inévitablement une forme de danger, de manque de maîtrise finalement sur ces éléments, et la liberté de l'espace, du mouvement, de ce qu'on mange, de là où on dort, une liberté qui n'est pas touchée, qui n'a pas été restreinte par l'homme. C'est vraiment l'idée que j'ai du sauvage. Pour moi, c'est aussi très lié à l'enfance. Je vois l'enfance comme une période de sauvagerie où il y a encore cette liberté dans l'esprit, une forme de liberté, quelque chose qui n'a pas encore été trop touché, trop abîmé, et qui garde justement un rapport assez instinctif en fait à ce qui l'entoure, à l'environnement, et qui du coup se met en danger aussi. Et c'est un peu comme ça que je vois le sauvage.
Cédric Gras.
Je crois étymologiquement que le sauvage, ça, à l'origine, c'est la sylve, c'est la forêt. Alors ça me va très bien. Moi, j'ai toujours vu le monde sauvage dans la forêt, quelle qu'elle soit, tropicale, primaire, vierge, la taïga, la toundra, ça peut être aussi une petite forêt, mais je pense qu'effectivement, le monde sauvage s'inscrit dans une opulence de chlorophylle. C'est la vie, en fait, le sauvage. C'est un foisonnement de vie. Mais qui n'est pas forcément très aimable et qui est très trompeur. Moi, mes rares expériences que j'ai du monde sauvage, c'est quand même, j'en ai des souvenirs, une sorte de qui-vive permanent, de méfiance, parce que chaque rencontre, c'est un rapport de force, en fait, le sauvage en permanence. À chaque fois qu'on fait une rencontre, on est en train de jauger l'autre, que ce soit un animal ou un homme, d'ailleurs, ouais. Parce qu'on ne sait pas très bien d'où il vient, on ne le connaît pas. Au milieu des immensités, on ne sait pas très bien s'il est bien intentionné. Et si c'est un animal, évidemment, on est en train de jauger s'il nous attaque, ce qu'on pourrait faire pour répondre, etc., etc. Il y a un rapport de force permanent, qui vive, quelque chose de très bestial, de l'ordre de la survie. Et en même temps, c'est vrai, est-ce que c'est contradictoire ou pas, la preuve que non, puisque c'est dans la nature et que c'est comme ça. Et en même temps, il y a cette beauté, ce cadre incroyable, qui fait que le sauvage, je sais pas, c'est peut-être un peu meurtre au paradis, en fait.
C'était Rencontre sauvage, un podcast du Musée de la chasse et de la nature, réalisé par Céline Duchesnay et Laurent Polleret. Avec Sandrine Colette, Éric Baratet, Maëlys Adémar, Cédric Gras et Gaspard Koenig. Un podcast enregistré dans le cadre de Lire la nature, salon du livre de la Fondation François Sommer, qui s'est tenu au Musée de la chasse et de la nature les 20 et 21 janvier 2024.